Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis heureux de commencer cette troisième session de nos travaux, heureux de la commencer ici à l'École normale. C'est l'occasion pour remercier encore une fois Anne-Catherine Baudouane pour son engagement, dévouement, passion pour tout ce qui a été fait avant et maintenant pour la réussite de ce colloque. Et je vais tout de suite commencer en saluant Emanuela Fogliadini de la faculté de théologie de l'Italie septentrionale qui va nous introduire au Joseph dans la tradition byzantine, Joseph dans l'ombre, le fiancé de la Vierge Marie dans l'iconographie byzantine. Je vais tout de suite dire que ces nombreux travaux portent en effet sur la tradition de l'icône, l'invenzione dell'immagine sacra, la legittimazione ecclesiale dell'icona al secondo concilio di Nicea, et puis avec François Besflug, la fuite en Égypte dans l'art d'Orient et d'Occident, traduction italienne en 2016, et j'ai eu le privilège de partager, il faut quand même rappeler que Joseph n'est qu'une partie de la Sainte Famille, et nous l'avons préparé en travaillant ensemble, un magnifique volume paru chez Treccani à Rome, sur Marie précisément, la tradition, les cultes dans tous les continents, les sanctuaires très imagés, très luxueux. J'espère qu'il y aura une traduction française. Donc ça nous permet de commencer ces travaux avec un équilibre parfait. Il n'y a pas seulement la figure de Joseph, mais voilà. Nous, on est en tout cas, on a payé nos dettes par rapport à la tradition mariale. Voilà, donc je suis heureux de vous donner la parole et je vous présente mes excuses si je vais là pour mieux voir vos images. Merci infiniment.
Merci. Une lecture rigoureuse de la figure de Joseph dans l'iconographie byzantine doit nécessairement faire référence aux évangiles canoniques, aux écrits apocryphes, aux homélies patristiques et aux textes liturgiques. Cette riche littérature propose de nombreux éléments que l'iconographie reprend, retravaille, adapte. Les principaux écrits apocryphes qui ont influencé l'iconographie byzantine de Joseph sont les protoévangiles de Jacques, l'évangile arménien de l'enfance, les livres de la Nativité de Marie et l'histoire de Joseph le Charpentier. La liturgie et l'hymnographie sont centrales car elles condensent la théologie et le rôle de Joseph dans l'histoire du salut. Les dimanches après Noël est dédié à la commémoration des trois saints que la liturgie byzantine qualifie des pères du divan, Saint Joseph, l'époux de la Vierge, les saints rois David et Saint Jacques, les frères du Seigneur. Il s'agit de l'unique fête liturgique entièrement consacrée à Joseph. La révélation divine à Joseph de l'incarnation prodigieuse et virginale du Christ dans les siens de la Vierge est également évoquée dans la liturgie de la veille de Noël et dans la stanza numéro 6 du très célèbre hymne acatiste à la Mère de Dieu. Comme on le sait, dans les mondes byzantins, l'image sacrée est une expression de la théologie. Cette prémisse est nécessaire pour comprendre correctement les rôles sensiblement marginaux de Joseph dans les mosaïques, les fresques, les icônes. Non qu'il se soit agi de mettre à l'ombre ou de les sous-estimer. Sa position décentrée ou secondaire est la traduction dans l'art du dogme christologique qui souligne l'origine divine de la parole de Dieu, la conception virginale de Marie et le rôle des simples gardiens de Joseph. L'une des premières références à son rôle se trouve dans l'Apocryphe protévangile de Jacques, dont la transcription fidèle a été faite entre 1313 et 1315 dans les cycles des mosaïques de l'église de Cora à Constantinople. y a raconter l'histoire de la croissance de Marie au Temple de Jérusalem, où elle fut présentée par ses parents à l'âge de 3 ans. Elle y demeura jusqu'à ses 12 ans, quand les prêtres furent soucieux de choisir pour elle un gardien. Ils convoquèrent pour cela toutes les veuves du pays, à qui ils donnèrent une baguette. Je cite, « Les grands prêtres prirent les baguettes de chacun, il entra dans le temple, il pria, puis il sortit, après les avoir rangés l'un contre l'autre sous l'autel, et rendit à chacun la baguette qu'il avait apportée. » Aucun signe ne se manifesta, jusqu'à qu'il rendit à Joseph la sienne, et en sortit une colombe qui alla se placer sous la tête de Joseph. Et le grand prêtre dit à Joseph, « Tu es désigné par les choix des dieux afin de recevoir cette Vierge du Seigneur pour la garder auprès de toi. » Dans la mosaïque de Cora, le prêtre est agenouillé priant Dieu de désigner le futur époux de Marie. Et voici que le quatrième des 12 bâtons, sous la droite, se distingue de tous les autres par 3 feuillets vertes sortant de son extrémité. Face à ces signes prodigieux, Joseph répondit par une déclaration qui influencera l'iconographie et les calculs concernant son âge. « J'ai des enfants et je suis vieux, tandis qu'elle est fort jeune. Je crains d'être un sujet de moquerie pour les filles d'Israël. » Ici, Joseph se présente comme un veuf âgé. Cette interprétation, reprise par divers auteurs et par la liturgie, divine en caractéristique de la tradition de l'Église byzantine puis de l'Église orthodoxe. Les vêpres du dimanche après Noël chantent de manière explicite, je cite, Joseph l'époux, qui dans sa vieillesse vit clairement la prédication des prophètes, ayant un destin étrange et recevant des oracles des anges. Le grand âge de Joseph fut largement reçu et diffusé dans la tradition iconographique. On le voit dans la scène rare du recensement à Cora. À l'époque de la nativité du Christ, dans son miniature du Ménologe de Basile II du Xe siècle. Dans la fresque de la présentation du Christ au Temple de l'Église Blanche de Caran en Serbie du milieu du XIVe siècle. Et dans l'entrée du Seigneur en Égypte avec sa mère et Joseph le charpentier de la tradition tardive copte. Saint Épiphane, dans son De Fide, soutient que Saint Joseph avait 80 ans et 6 enfants lorsqu'il devient le fiancé de la Vierge. Version confirmée par l'histoire de Joseph le charpentier qui raconte qu'il, à l'occasion après un an de veuvage, à l'occasion du 14e anniversaire de Marie, fut choisi comme gardien de la virginité de Marie, comme Jésus lui-même l'a dit aux disciples dans l'histoire de Joseph le charpentier. Je cite, « Or tandis que mon père Joseph visait dans le veuvage, Marie, ma mère, bonne et bénie en toute manière, s'y trouvait, elle, dans le temple, s'y acquittant de son service, dans la sainteté. » On le voit ici dans l'église de Joachim et Anne à Studenica. Elle avait atteint l'âge de 12 ans, avant passé 3 années dans la maison de ses parents et 9 dans le temple du Seigneur. Selon la version de l'évangile du pseudo Matthieu, Marie exprima la ferme volonté de rester vierge. Face à la demande insistante du prêtre Abiathar de la prendre comme épouse pour son fils, Marie aurait persisté dans son propos. Dans les proto-évangiles de Jacques, Joseph, élu par Dieu pour protéger la virginité de Marie, découvra l'époux enceinte, a eu, selon les récits de l'Apocryphe, une réaction d'inquiétude étroitement liée à son rôle de protecteur. Dans la même voûte à Cora, 2 scènes sont représentées. Joseph, sous le départ, laissant la Vierge seule, et, sulla droite, en scène endommagée e très rare, dalle quelle Joseph revienne e reprimande Marie parce que il la trouvait enceinte. Il se frappé le visage, se jeta par terre et pleura amarmente, disant « Je l'ai reçu vierge du temple du Seigneur et je ne l'ai pas gardé. Les tourments de Joseph, qui s'expriment souvent dans la littérature apocryphe, contrairement à son silence dans les évangiles canoniques, se concentrent sur son incapacité à tenir sa promesse en tant que gardienne de la virginité de Marie. Aussi, l'hymne acatiste à la Mère de Dieu, Stance 6, rappresenté ici dans les fresques russes du monastère de Ferapontes du fait de Louvre de Dionysos et de ses fils, rappelle les profonds troubles de Joseph avec des mots soigneusement choisis. Je cite Joseph le sage se troubla, secoué par un tempête des pensées contradictoires. Il te vit inépousé, les tests grecs précises, privé d'expérience des noces, et te soupçonna d'un amour caché, en grec, des noces furtives, toi l'irréprochable. Mais apprenant que ce qui avait été engendré en toi venait de l'Esprit Saint, il écria Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les protoévangiles de Jacques enregistrent les multiples accusations portées contre Joseph par des prêtres face à la découverte de Marie enceinte. Il a souillé la Vierge qu'il avait reçue du Temple du Seigneur, il a fraudé la loi du mariage et il s'est caché devant les fils d'Israël. Joseph tente de se défendre. Vive le Seigneur Dieu et vive son Christ. Je les prends à témoigne que je suis pur de tout commerce avec elle. Sans réussir à convaincre les grands prêtres qui viennent de décider que Joseph et Marie doivent subir l'épreuve de l'eau des malédictions, décrit par le livre des Nombres, chapitre 5. Celle-ci était destinée à démasquer ou à prouver l'innocence d'une femme soupçonnée d'adultère par son mari. Il est curieux que l'apocryphe grec rapporte que Joseph doit lui aussi en passer par là. L'iconographie photographie les moments de la mise à l'épreuve de Marie. Cela se voit dans les fresques de l'église de Santa Maria Foris Portas à Castelsepio du Xe siècle et à droite dans la mosaïque du transept nord de la basilique de San Marco à Venise du XIIe siècle. L'évangile de Matthieu rappelle la décision de Joseph, homme juste, qui ne voulait pas exposer Marie à l'infamie et a décidé de la quitter secrètement. La dénomination des justes revient également dans les défis d'Épiphane, qui précise en quoi consiste l'être juste de Joseph. Je cite « Il n'a jamais mis un vêtement en laine. Depuis qu'il se sont agenouillés devant le Seigneur avec une extrême piété, ses genoux sont devenus aussi durs que ceux du chameau. Il n'était plus appelé par son nom, il s'appelait les Justes. Il ne se lavait jamais dans la salle de bain, ne mangeait pas de viande, ne mettait pas de sandales. » Les doutes de Joseph sur la mystérieuse maternité de Marie ont été dissipés, selon les récits canoniques, lors d'un premier songe angélique. Joseph aurait été averti divinement par quatre songes. Le premier l'invita à ne pas craindre d'épouser Marie. Le second lui commanda de fuir sans tarder en Égypte pour sauver la mère et l'enfant de l'ordre de mise à mort donné par Hérode. Le troisième lui annonça la mort d'Hérode et enfin le quatrième lui commanda de rentrer à Nazareth en Galilée et non en Judée. Alors que le deuxième songe est le plus souvent rappresenté dans l'iconographie byzantine, le premier est plus rare. On le trouve ancora une fois dans les programmes des mosaïques de Cora, dans la lunette du voyage à Bethléem confirmée par la longue inscription au-dessous de la scène. Joseph est rappresenté en train de dormir sous son lit. Derrière lui, partiellement caché par une colline, Marie et une femme rappresentées de profil. Sulla droite de la lunette, trois figures se déplacent en direction de Bethléem pour le recensement ordonné par César Auguste. Marie, assise sous l'âne, se tourne vers Joseph, qui la suit, tandis qu'un des fils de Joseph les précède. Les regards de Marie et Joseph se rencontrent. Les apocryphes suggèrent une conversation entre eux, éveillée par les changements d'humeur soudaine de Marie. Dans l'épisode central de l'histoire chrétienne, à savoir la nativité du Christ, Joseph occupe une position décentrée. On le voit clairement dans l'angle gauche de la fresque de l'église de Saint Démétrius au patriarcat de Pech. Le choix est intentionnel et théologiquement correct. L'icône de la nativité du Christ doit révéler avant tout l'essence même de la fête, l'effet de l'incarnation réelle du Logos de Dieu, en soulignant par ses détails à la fois la divinité et l'humanité du Verbe incarné. Au centre, dans la grotte, comme le montrent les mosaïques du XIIe siècle du catholicon d'Osios Lucas sous la gauche et de Daphni sous la droite, l'enfant Jésus est couché dans son mangeoire rassemblant un tombeau, et c'est l'ange préfigure la passion à venir. La Vierge a en position centrale, imposante aussi par sa taille, à la fois dalla fresque du monastère d'Asios Neophytos à Chypre du XIIe siècle et, sulla droite, dans un rare peinture murale arménienne dans le monastère d'Actala du siècle suivant. Autour de cette scène principale s'organisent d'autres scènes. L'annonce des anges aux bergers, l'adoration des mages, la toilette de l'enfant par les sages-femmes, qui soulignent l'humanité de cette naissance, le réalisme de l'incarnation. Joseph est représenté à l'écart des figures centrales de Jésus et de la Théotokos, en général dans l'angle inférieur gauche. C'est parce qu'il n'était pas impliqué dans les miracles de l'incarnation du Fils de Dieu. Dans la représentation de la Nativité, Joseph a souvent des dimensions si réduites, comparées à celles de la Vierge qui occupe avec les fils la plus grande partie de l'espace disponible, qu'il faut les chercher, comme dans la conque de l'abside du monastère des Syriennes en Égypte du XIIe siècle, qui laisse place au mystère de l'incarnation dans ses deux phases, l'Annonciation et la Nativité. Joseph est toujours méditatif. Dans l'art monumental byzantin, il est généralement représenté seul, la main sous le manteau. L'iconographie post-byzantine place un ou deux bergers devant Joseph, comme dans cette icône grecque de la seconde moitié du XVe siècle, interprétée comme une personnification du diable qui nourrit les pensées agitées de Joseph. Je cite, « Comme ces bâtons ne peuvent pas produire des feuilles, un vieil homme comme vous ne peut pas engendrer, et par ailleurs, une vierge ne peut pas enfanter. » Dans la personne de Joseph, l'iconographie byzantine et de manière plus explicite celle de la période post-byzantine nous révèle non seulement un drame personnel, mais la difficulté de toute l'humanité d'admettre l'incarnation de Dieu qui dépasse la parole et la raison. La liturgie de Saint Basile le Grand rapporte que le huitième jour de la naissance du Sauveur, ses fils de l'homme doit être circoncis par ses premiers sacrifices de sa chair innocente. La circoncision n'est pas un sujet que l'iconographie byzantine fréquenta. La miniature du Ménologe de Basile II est une exception remarquable. 40 jours après la naissance de Jésus, la présentation du Seigneur au Temple est un complément du cycle de Noël. On nomme aussi la fête la Sainte Rencontre ou Ipapante, du grec Léo Devin, comme est marqué dans l'inscription de la mosaïque d'Osios Lucas. Et elle est aussi la fête de la purification parce que, 40 jours après la naissance du Seigneur, la Vierge vint au Temple se purifier selon la loi de Moïse. Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph. Il rencontra les veillards Siméon et la prophétesse Anne. Dans la longue liturgie du 2 février, Joseph n'est jamais mentionné. Dans l'homélie de la fête composée par Léonce de Néapolis, il se demande de manière rhétorique pourquoi Siméon bénit Marie et Joseph, mais ne parle qu'à Marie. Et se répond que les prophètes, éclairés par l'Esprit de Dieu, a compris que, je cite, « Marie était la vraie mère de l'enfant, alors que Joseph n'était que nominalement son père. » Dall'iconographie, Joseph occupa la posizione la plus extérieure de la scène. Il est présent avec discrétion et assure l'accomplissement de la loi juive. Il apporte deux colombes, comme on peut les voir sous la fresque de l'église des Marques en République de Macédoine du Nord, datant du 3e quart du 14e siècle. Joseph ne peut pas acheter un agneau. Il offre deux colombes pour la purification des maris, comme les prescrit les Lévitiques. Le schéma est, pour l'essentiel, toujours identique. Également, dans la fresque monumentale de l'église du monastère des Sopočani en Serbie, au centre, la Vierge donne l'enfant à Simeon, qui le recevoit avec une profonde dévotion, les mains recouvertes du petit manteau, expédiante iconographie servant à souligner la nature divine du Christ, utilisée notamment par les anges lors du baptême. Les figures de Saint Joseph et de la prophétesse Anne encadrent la scène. Dans la tradition patristique et dans la littérature homélitique, Joseph est le serviteur fidèle que le Seigneur a établi sous sa famille et protège Jésus et Marie de la menace de mort lancée par le roi Hérode. Un seul évangile canonique mentionne la fuite en Égypte, celui selon saint Matthieu, en trois versets, chapitre 2, versets 13-15. C'est un épisode qui, bien qu'il faisant l'objet des discussions entre les exégètes actuels sur sa plausibilité historique, a suscité en très riche littérature apocryphe et homélitique copte, éthiopienne, arménienne et en très grand nombre d'œuvres d'art. Vous voyez ici un petit essai que François Bosflug et moi on a écrit et publié l'année dernière sur la fuite en Égypte, où on fait l'état de la question au niveau historique, liturgique et surtout iconographique. Dans son cycle hypothétique de Joseph, tel que nous sommes en train de le parcourir, il s'agit de l'épisode dans lequel son rôle de protecteur apparaît de manière plus explicite, et pas seulement cela. L'iconographie byzantine laisse également la place à la relation père-fils, avec une trouvaille qui, tout en renforçant l'affection entre les deux, conserve intacte la manifestation de la nature divine de Jésus. La mosaïque de la chapelle palatine, où les douzièmes songes de Joseph et la fuite en Égypte se suivent, présente au centre la Vierge assise en Amazone, frontalement disposée, sur un cheval d'allure solennelle. Derrière eux, un jeune homme, Jacques, fils de Joseph, fait avancer le cheval avec un petit fouet. Sous la droite, Joseph, avec Jésus sous les épaules, est un mix harmonieux de tendresse et de solennité. La position à cheval de Jésus et sa main gauche posée sur les cheveux blancs de Joseph indiquent la profonde familiarité entre le père et son fils. En même temps, les nimbes crucifiées, la position frontale, les visages orientés vers la mère qu'il désigne du bras droit, les visages d'adultes du Christ rendent la scène hiératique. Joseph n'a pas de nimbes et semble exclu du dialogue entre la mère et les fils. La position de l'enfant avec son père adoptif, lui tenant en jambe, typique de l'iconographie byzantine, nous la retrouvons dans l'église rupestre dédiée à San Biagio, à San Vito dei Normanni, XIIe siècle. Joseph, déchaussé mais nimbé, suit la Vierge en s'appuyant sur un bâton et portant Jésus sur les épaules. Dans cette peinture murale, entre Jésus et Joseph, l'intimité est accentuée par le fait que Marie regarde vers l'ange placé dans les médaillons et que l'enfant caresse la barbe du père âgé. La solennité de la personne du Christ est soulignée en revanche dalla fresca della fuita in Egitto du Catholicon de Decani, peinte entre 1335 e 1350, che rappresenta la 11e stanza dell'hymne acatiste. Je cite: «En faisant briller en Égypte la splendeur du vrai, tu as dissipé la ténèbre de l'erreur. Les idoles du pays de l'esclavage se sont placées sous ta puissance. Et ceux qui tu as ainsi délivrés du péché se tourne vers la mère des dieux pour la chanter. La mère à Décenni est en position frontale, mais tournée vers le Christ à cheval sous les épaules de Joseph. Son regard dirigé vers les fils est rempli de délicatesse et son geste des bras tendus signale le tournant de l'art paléologue en direction de l'expressivité spontanée. Jésus se penche vers la mère, tendant les bras pour l'embrasser. Joseph avance avec précaution, en tenant étroitement les fils aux jambes. La scène est organisée en sorte que le point focal de tous les regards soit le Christ. La mère se retourne, les garçons regardent en arrière, les personnages sous la droite de la fresque sont orientés vers lui. En femme richement habillée et couronnée, et trois hommes sont massés à l'entrée densité à l'architecture complexe. La femme est la représentation allégorique traditionnelle de l'Égypte accueillant le Christ. Mais au sommet de la cité, les idoles égyptiennes, représentées comme quatre silhouettes blanches, sont en train de s'écrouler, ou plutôt de se précipiter littéralement à terre devant le Verbe des dieux. Joseph, selon la version d'Épiphane, n'est vécu pas longtemps après son retour d'Égypte. Pour l'histoire de Joseph le charpentier, en revanche, sa fin arriva dans sa 111e année. Malgré ce rapport apocryphe et l'histoire émouvante que Jésus lui-même raconte de la mort de son père, l'iconographie byzantine n'a réservé aucune image en tel moment, à la différence de l'art occidental. Les deux derniers épisodes à lesquels Joseph est présent, les voyages à Jérusalem pour la Pâque et la découverte de Jésus âgé de 12 ans parmi les docteurs du temple, sont des exceptions dans l'art byzantin. En ce qui concerne les premiers épisodes, c'est encore une fois l'extraordinaire cycle des mosaïques de Cora qui les conserve. Une telle représentation est presque un apax de l'art byzantin. On la trouve que dans très peu de manuscrits enluminés. La Sainte Famille avance dans une ville entourée de murs située à droite. Le Christ est représenté comme un adolescent marchant d'un pas décidé derrière Joseph. Deux des fils de Joseph les accompagnent et la Vierge ferme la marche. Joseph se tourne. D'un geste attentif, il vérifie que Marie et Jésus les suivent. Les styles narratifs imprégnés des valeurs affectives, selon les goûts et l'esthétique de l'art paléologue, atteignent son apogée à Cora. Même la découverte de Jésus âgé de 12 ans, parmi les docteurs du temple, avec la présence de Marie et de Joseph, est décrite de manière limitée. Il quittera bientôt la place pour la représentation de l'ami Pentecôte, qui isole un Jésus adolescente ou adulte. Les deux possibilités sont illustrées dalle fresque dell'église de Decenni, parmi les docteurs, soulignant le caractère des premiers signes du ministère public du Christ et de la préfiguration de sa manifestation. L'art byzantin monumental comporte quelques fresques avec la présence de Marie et de Joseph dans la scène du retrouvement. Il est habituel que la Vierge soit la plus proche du Fils, comme on le voit dans l'église Saint-Nicolas et Saint-Pantaleimon, plus connus sous le nom de Boyana en Bulgarie, décorée en 1259. Mais cet ordre n'est pas fixe. Les démontre la fresque majestueuse sous les murs d'une osse du catholicon de Sopocani, où est Joseph qui semble adresser la parole au docteur le plus proche pour lui demander des nouvelles de son fils. Ou celui plus tardif d'un monastère de Dionysus sous les monts Athos, avec les deux parents entourant Jésus, maintenant assis solennellement en chair. Est-il vrai que Joseph, dans l'iconographie byzantine, s'étreindrait dans l'ombre? Concluons. Si la référence est l'art religieux occidental, alors apparaît clairement un sort de mise à l'ombre de Joseph, non seulement à Byzance, mais aussi en générale dall'orthodoxie et dans certaines des orientes chrétiennes. Mais si nous entrons dans la logique du renvoi révélateur entre les mots et l'image, qui est la règle herméneutique de l'image sacrée dans l'iconographie byzantine, nous pouvons apprécier la pertinence théologique de cette iconographie. Joseph, époux non époux, comme le dit la liturgie, à l'ombre des représentations artistiques, est le discret mais réel protecteur de Jésus et de la Vierge. Parfaitement dans la ligne de ses plans salvifiques qu'il avait eu au départ du mal à comprendre et pour lesquels il joua un rôle crucial, fût-ce dans l'ombre. Merci.
Nous remercions vivement Emanuela Fogliadini pour cet exposé qui a parcouru toute la tradition du porte-évangile de Jacques et aussi la tradition byzantine en nous montrant dans un vaste territoire qui arrive jusqu'à Sant'Anta dei Goti, n'est-ce pas ?
Dei Normanni.
Dei Normanni, oui. Sant'Anta dei Normanni, Byzance, l'Arménie, toute la floraison de la, et le rôle de Joseph. Je note ici vraiment la... comme dans d'autres fresques que vous avez montrées, l'espace minime qui lui est concédé, mais en même temps, c'est quelque chose qui se fixe comme une fonction. Quelques siècles plus tard, les donateurs auront la même place et le même rôle. Peut-être qu'il était un donateur de protection, on l'a déjà vu hier plusieurs fois. Dans ce contexte, vous avez marqué, il y a aussi un jeu d'espace, la proximité, la distance, les bras du Christ qui vont vers la mer, mais alors le petit enfant qui caresse la barbe de Joseph. Enfin, il y a vraiment une multiplicité d'attitudes qui sont développées, qui montrent que en réalité le rôle de Joseph n'était pas si figé que cela. Donc, un grand merci tout d'abord pour cette richesse, pour cet éventail de propositions iconographiques. Et bien sûr, le débat est ouvert. Nous avons 5 minutes pour les questions ou les précisions ou les compléments pour ceux qui veulent intervenir.